une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
C'est un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Stéphanie Bascou, journaliste économique indépendante. Salut Stéphanie.
Salut Emmanuel.
Dans cet épisode, tu vas nous parler du général de Gaulle, de la démocratie dans l'entreprise et du loup de Wall Street.
Exactement. Alors, pour aborder la question du dividende salarié, je me suis remémoré un entretien d'embauche que j'ai passé en 2011. Imaginez, à cette époque, je suis une jeune diplômée. Je cherche du boulot depuis plusieurs mois. Bon, ok, je galère. Et je décroche un entretien pour un CDD dans une très grosse boîte. En une journée, je suis passée à la moulinette, par les RH, par le manager et par le N+2, avant qu'on finisse par me poser pour la première fois la fameuse question des prétentions salariales.
Et là, c'est le drame.
Vous savez, celle dont on a horreur et qui, une fois le chiffre prononcé avec une fausse assurance, pourrait déclencher une catastrophe nucléaire. Enfin, le rejet de votre candidature. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Car c'est à ce moment-là que j'ai entendu ces mots pour la première fois. Vous aurez droit à une prime d'intéressement et à une prime de participation équivalente à des 13e mois. Sur le moment, je n'ai absolument aucune idée de ce que ces mots veulent dire. Mais deux 13e mois, ça me parle.
Voilà, j'aime bien.
Et je vais effectivement toucher ces primes qui sont des dispositifs d'épargne salariale. Ce que j'ai découvert en préparant ce sujet, c'est que ce type de prime existe parce qu'il y a plus de 50 ans, on a voulu associer les salariés aux résultats de l'entreprise. On a voulu qu'ils touchent une partie de ses bénéfices. Et quand j'ai entendu parler ces derniers mois du dividende salarié, c'est-à-dire d'aller plus loin que les règles existantes pour qu'il y ait une plus juste répartition des richesses entre les actionnaires et les salariés, je me suis dit tant mieux pour mes anciens collègues et tant mieux pour les salariés français. Pourtant, la mesure a suscité une levée de boucliers et je vais vous expliquer pourquoi. Les salariés toucheront-ils des dividendes ?
Alors, le dividende salarié, qu'est-ce que ça veut dire ?
Allez, on commence par une explication de texte.
Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait !
Ça pourrait être tout à fait un oxymore parce que les deux termes renvoient à deux grandes notions en économie qu'on sépare traditionnellement. D'un côté, avec le dividende, on a les profits qui rémunèrent le capital. De l'autre, avec salarié, on a les salaires qui rémunèrent le travail. Alors, c'est vrai que quand on entend le mot dividende, on imagine une scène du loup de Wall Street avec des dollars, des traders et de la drogue. Mais en fait, c'est quoi un dividende ? Si on prend une société rentable qui fait des bénéfices comme Apple, il faut comprendre qu'il y a un moment dans l'année où cette entreprise va devoir faire un choix. Soit elle décide de conserver ses profits dans ses caisses ou de les réinvestir dans ses projets en développement, soit elle opte pour en redistribuer une partie à ses actionnaires. On dit qu'elle verse des dividendes, une allocation qui vient récompenser celui qui a investi, qui a payé pour détenir une part de cette entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a rien d'automatique. Pendant des années, Apple n'a par exemple pas verser de dividendes à ses actionnaires, même si elle était rentable. Mais de l'autre côté, on a le salarié qui, lui, est dans un rapport de subordination. En échange de son travail, il va toucher une rémunération fixe qui va tomber tous les mois, quoi qu'il arrive, même si la société ne fait pas de bénéfices et même si son entreprise est dans une mauvaise passe.
Mais alors d'où ça vient, cette histoire de dividendes salariés ?
L'expression vient de l'ex numéro 2 du MEDEF, Thibault Langsade, le PDG du groupe Lumines, qui a développé dans un livre l'idée de créer un dividende salarié qui permettrait un meilleur partage de la croissance au sein de l'entreprise. L'idée a ensuite été reprise par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2022. On l'écoute au micro de France Bleu Normandie le 14 avril dernier.
Je veux mettre en place ce que j'ai appelé le dividende salarié, qui est vraiment une refonte du pacte social dans l'entreprise. Quand une entreprise marche bien, elle verse du dividende à ses actionnaires. C'est normal. Mais l'entreprise, elle tourne aussi avec des travailleurs. Ils ont leur salaire, leur prime, mais quand il y a un bon revenu durant l'année, il faut à ce moment-là qu'ils puissent toucher quelque chose.
À l'origine, la mesure devait faire partie de la loi sur le pouvoir d'achat votée l'été dernier, mais elle a finalement été repoussée. Elle a ensuite fait l'objet de discussions entre les partenaires sociaux à la demande du gouvernement. Et un accord a été trouvé et annoncé le vendredi 10 février. Le texte de 26 pages a été signé par les syndicats du patronat et une partie des syndicats des salariés. Et l'accord trouvé devrait être repris dans un futur projet nouvelle loi. C'est ce qu'a promis Elisabeth Borne lundi 20 février. Et même si l'expression « dividende salarié » a été unanimement rejetée parce qu'elle est, je cite, « source de confusion », on retrouve bien l'idée d'améliorer le partage des bénéfices de l'entreprise avec les salariés.
Si tu parles d'amélioration, c'est qu'il existe déjà des mécanismes de partage. Quand est-ce qu'ils ont été mis en place ?
En France, on a grosso modo quatre dispositifs de partage de la valeur. L'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié et la prime Macron. Les trois premiers datent du général de Gaulle, qui en matière d'économie avait un objectif bien particulier. Rappelez-vous, dans les années 50-60, on est en pleine guerre froide, avec deux visions qui s'opposent, le capitalisme et le communisme. De Gaulle n'est convaincu ni par l'un ni par l'autre. Il veut mettre en place une troisième voie, en particulier dans le monde de l'entreprise. On l'écoute dans une interview télévisée du 7 juin 1968.
Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartient qu'au capital. Et alors ceux qui ne le possèdent pas se trouvent dans une sorte d'état d'aliénation à l'intérieur même de l'activité à laquelle ils contribuent. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne. Ça implique que soit attribué de par la loi à chacun une part de ce que l'affaire gagne et de ce qu'elle investit en elle-même grâce à ses gains.
Qu'est-ce qu'il dit, De Gaulle ? Il explique qu'une entreprise, pour bien fonctionner, elle a besoin de capitaux. C'est ce qui va lui permettre d'acheter des machines, de louer des bureaux. Elle a aussi besoin de dirigeants et de travailleuses et travailleurs pour produire les biens et services. Et son message, c'est que pour éviter une fracture sociale, les salariés qui participent aussi au processus de création de richesses dans l'entreprise, par leur travail, doivent pouvoir toucher une partie des profits, en plus de leur rémunération. De Gaulle va mettre en place des ponts entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui travaillent. En 1945 est créé le comité d'entreprise, l'ancêtre du Conseil social et économique. En 1959 naît l'intéressement, facultatif pour les entreprises. C'est une prime qui va être touchée par les salariés si un objectif de performance ou de résultat, pas forcément financier, est atteint, comme par exemple la satisfaction des clients. Et par les ordonnances du 17 août 1967, il met en place la participation qui devient obligatoire pour toutes les firmes de plus de 100 salariés. C'est une prime versée aux employés qui est proportionnelle aux bénéfices de la société sur une année comptable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France est l'un des seuls pays au monde à avoir un dispositif de participation obligatoire. Et pour inciter les entreprises à les utiliser, ces sommes vont bénéficier d'un régime fiscal avantageux. Parallèlement, on donne la possibilité aux entreprises de mettre en place des dispositifs d'actionnariat salarié, selon lesquels un salarié devient actionnaire, soit en investissant le montant de ses primes d'intéressement et de participation dans l'achat d'actions de l'entreprise, soit en bénéficiant de tarifs ou d'avantages préférentiels. Alors, après cette série de mesures, il ne va pas y avoir de grands changements entre les années 60 et aujourd'hui. À l'exception de deux choses. La participation devient obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés en 1990, contre 100 à l'origine. Et la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron est mise en place après les Gilets jaunes. Elle permet à une entreprise de verser à ses employés une prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros et maintenant jusqu'à 6000 euros. Mais si les règles changent peu, la question du partage des bénéfices ne quitte jamais le débat public. Plusieurs hommes politiques vont essayer d'aller plus loin. Nicolas Sarkozy, après la crise financière de 2008, demande par exemple aux partenaires sociaux d'adopter la règle des 3 en cas de bénéfice pour les très grosses sociétés. Un tiers irait aux salariés, un tiers aux actionnaires et un tiers à l'investissement. Mais sa préconisation n'aboutira jamais.
Mais si la question revient régulièrement sur la table, pourquoi on en reparle ces derniers mois ?
Parce que les salaires n'ont pas autant augmenté que l'inflation. Le service des statistiques du ministère du Travail, la DARES, estime qu'en 2022, les rémunérations dans le privé ont augmenté en moyenne de 3,8% contre plus de 6% d'inflation. Les salariés ont donc perdu en pouvoir d'achat et le gouvernement a cherché des solutions pour y remédier. Il ne peut pas obliger les entreprises à augmenter les salaires puisque c'est le secteur privé. Il n'a pas opté pour l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. Sur ce sujet, je vous invite à écouter le super épisode de Splash de Robin Lemoine qui s'est demandé si qu'il est délirant d'indexer les salaires. Et l'exécutif n'a pas non plus choisi de taxer les super-profits, mais il défend le dividende salarié. On en reparle aussi depuis plusieurs mois parce que les dispositifs actuels d'épargne salariale sont critiqués. Dans les faits, ils bénéficient seulement à une partie des salariés, les employés des grosses entreprises dont j'ai fait partie, alors que les salariés des PME ou d'entreprises de taille intermédiaire n'ont pas accès à ces dispositifs-là. C'est clairement ce que montrent les chiffres de la DARES. En moyenne, on a un salarié du privé sur deux qui bénéficie d'au moins un de ces instruments d'épargne salariale. Mais ce chiffre recoupe des réalités très différentes. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, donc les grosses boîtes, c'est presque 9 salariés sur 10. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est seulement 2 salariés sur 10, ce qui représente quand même 10 millions de Français qui ne bénéficient pas de ces primes, sans compter tous les sous-traitants et les intérimaires qui échappent à ces dispositifs.
Alors pourquoi les petites sociétés n'adoptent pas ces dispositifs ?
Parce qu'ils sont compliqués à mettre en place et parce qu'il faudrait les simplifier. Je prends un exemple. Le calcul de la participation date de la fin des années 60. Alors, accrochez-vous, c'est le bénéfice fiscal net de l'entreprise, moins 5%, multiplié par 1,5, multiplié par la valeur ajoutée et divisé par la masse salariale.
Et si tu m'expliquais comme si j'avais 5 ans ?
Pour Thibault Langsade, il faudrait déjà supprimer le demi et remplacer cette machine à gaz par un calcul beaucoup plus simple.
Un autre élément est venu mettre le feu aux poudres. La polémique sur les profits records de Total et les dividendes records versés par les sociétés du CAC 40 en 2022.
C'est vrai, selon les calculs de la lettre financière spécialisée Verninen.net, les sociétés du CAC 40 qui ont réalisé des profits records l'année dernière ont versé en 2022 à leurs actionnaires un montant record de 56 milliards d'euros. C'était 45 milliards en 2021, et 28 milliards en 2020, ce qui est venu renforcer l'idée d'un monde à deux vitesses, avec d'un côté des actionnaires qui reçoivent des dividendes faramineux et de l'autre des salariés qui ont perdu en pouvoir d'achat. Et c'est vrai que sur ces 40 dernières années, les revenus du capital ont dépassé de loin les revenus du travail. C'est ce que m'a expliqué Nicolas Aubert. Il est professeur à l'université d'Aix-Marseille et spécialiste de l'actionnariat salarié.
Les revenus du capital ont cru à une vitesse qui a dépassé de loin la croissance des salaires, des rémunérations du travail. On a un ouvrage qui est sorti il y a quelques années qui nous dit que les indices boursiers aux États-Unis ont cru de 8% par an depuis les 40 dernières années, alors que le salaire moyen, on parle plutôt de données nord-américaines, mais qu'on pourrait facilement extrapoler à l'Europe, alors que le salaire a augmenté en moyenne que de 0,27% par an. Donc ça témoigne en fait d'un accroissement de richesse pour ceux qui ont accès au capital, alors que ceux qui n'ont que leur revenu du travail ne s'enrichissent pas. On revient finalement un peu aux travaux de Thomas Piketty, par exemple, qui avait aussi identifié ces problèmes d'inégale répartition de l'accès au capital.
Donc je comprends qu'avec le dividende salarié, on veut rééquilibrer les choses. Comment ça a été accueilli par les économistes, les salariés et le patronat ?
Pas très bien, Emmanuel. Pour beaucoup, l'expression est très bien choisie d'un point de vue marketing. Si je résume, comme on a beaucoup critiqué le versement des dividendes records et que les salaires n'étaient plus assez élevés, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un dividende salarié pour rééquilibrer tout ça. Le problème, c'est que cette association de mots repose sur plusieurs malentendus. C'est ce que m'a expliqué Christophe Bonnet, professeur de finance à l'école de management de Grenoble. Le premier d'entre eux, les dividendes enrichissent les actionnaires.
On va s'en mettre plein les poches.
Quand une entreprise distribue des dividendes, ça veut dire que la valeur de l'entreprise va baisser d'autant. Si je prends un exemple, imaginons que vous avez une entreprise qui possède 10 millions de valeurs, d'accord, d'actifs, 1% d'activité, et puis elle a en plus 1 million de trésorerie, de cash. L'actionnaire, il a donc quelque chose qui vaut 11 millions. Le jour où 1 million de trésorerie est distribué à l'actionnaire, l'actionnaire reçoit 1 million de dividendes, d'accord, il a 1 million de trésorerie qui est passé de l'entreprise à sa poche à lui. Mais l'entreprise, elle vaut plus que 10 millions, elle vaut pas 11. Donc l'actionnaire ne s'est pas enrichi. C'est une partie de la valeur de l'entreprise qui lui a été transférée, mais il n'est pas plus riche qu'avant.
Donc si j'extrapole, recevoir des dividendes, c'est un peu comme si vous retiriez 20 euros de votre compte bancaire. C'est bien parce que vous avez 20 euros disponibles tout de suite pour faire vos courses, mais ces 20 euros seront en moins sur votre compte bancaire. Deuxième malentendu, l'expression sous-entend que le dividende, c'est mal, alors que c'est quelque chose qui est utile à l'économie. Christophe Bonnet.
Le terme dividende salarié, il est à mon avis extrêmement démagogique, voire populiste, parce qu'on sous-entend que le dividende, c'est pas bien, d'accord ? Et donc, il faudrait compenser une sorte d'injustice en disant, si une entreprise distribue les dividendes, eh ben, il faut compenser ça en taxant les dividendes, soit que ça soit conservé par l'État, soit que ce soit rétribué en partie aux salariés. Le dividende permet de réallouer de l'argent via les actionnaires et le marché financier, si vous voulez, la bourse, hein, entre les entreprises qui génèrent des gros profits et beaucoup de liquidités, mais qui n'ont pas besoin de les garder forcément, et les entreprises qui en ont besoin. Donc, il faut voir que le dividende, certes, une partie va être dépensée par les actionnaires, comme un peu en revenu, si vous voulez, mais finalement, l'essentiel des actionnaires, ce sont quand même soit des grands fonds d'investissement, des institutionnels qui vont finalement capitaliser, c'est-à-dire réinvestir l'argent qu'ils reçoivent dans d'autres entreprises. En fait, le dividende qui est si mal vu, il est, pour les économistes et les professeurs de finance, en fait, la plupart, il est vertueux, en fait, puisqu'il permet de réallouer de l'argent de LVMH au total à des entreprises beaucoup plus jeunes qui en ont besoin.
À côté de la critique des économistes, on a un certain nombre d'acteurs du patronat et des syndicats qui se sont prononcés contre, mais pas pour les mêmes raisons. Le patronat ne veut pas d'un nouveau dispositif et surtout, il ne veut pas quelque chose d'obligatoire qui, je cite, « augmenterait le coût du travail et nuirait à la compétitivité ». Les salariés préféreraient, eux, une augmentation de salaire pérenne, parce que ces primes d'épargne salariale dépendent des résultats de l'entreprise et du contexte économique. Ça introduit donc une notion de risque, de variable imprévisible, dans le système de rémunération. Ça revient à avoir une rémunération qui est calibrée sur les fluctuations économiques. C'est-à-dire, en cas de bénéfice, quand tout va bien, vous avez une prime, et quand ça ne va pas bien, vous n'avez rien, alors que le travail est, lui, toujours fourni, quoi qu'il arrive.
Ah bah non, alors là, certainement pas. Alors là, non.
Et justement, cette part variable de la rémunération, ça ne mettrait pas en danger les augmentations de salaire ?
On écoute Christophe Bonnet.
Ces mécanismes d'association au bénéfice de l'entreprise, quels qu'ils soient, bien sûr, ils ont un côté un peu instable. Donc, en tant que salarié, surtout des gens qui ont des petits salaires, je pense qu'il est préférable, effectivement, d'avoir une augmentation de salaire, que pas d'augmentation, qui soit remplacée par des mécanismes d'intéressement de participation qui, par définition, sont instables parce qu'ils dépendent des profits. Donc, il faut une certaine dose de ces mécanismes-là. Si ça prend trop de place par rapport au salaire, ça introduit une sorte de variabilité des salaires qui est tout à fait acceptable pour un cadre ou un cadre dirigeant pour lequel ça va être une sorte de plus par rapport à un salaire déjà conséquent. Mais pour des salaires relativement bas, effectivement, ce n'est pas forcément souhaitable d'aller trop loin dans ce sens-là.
D'ailleurs, dans l'accord trouvé entre patronat et syndicat le vendredi 10 février, il est rappelé avec force le principe de non-substitution. Le salaire doit rester la rémunération principale du salarié et les dispositifs d'intéressement, de participation et autres ne peuvent s'y substituer.
Alors justement, cet accord est arrivé un peu par surprise mi-février.
Oui, Emmanuel, en plein conflit sur la réforme des retraites, plus personne ne s'attendait à ce que les partenaires sociaux parviennent à un accord.
Tiens donc, quelle surprise.
Voilà. Il faut dire que le gouvernement a mis la pression sur ces derniers, en rappelant à plusieurs reprises qu'il y aurait bien un projet de loi en 2023 et en organisant une conférence du parti de la majorité sur le partage de la valeur en entreprise. Le message est clair, en cas de désaccord, le gouvernement imposera seul sa vision des choses.
Et qu'est-ce qu'il entend par « dividende salarié » ?
Alors, ça reste flou. On sait juste qu'il y aurait un conditionnement. Si vous voulez verser des dividendes aux actionnaires, vous devez en verser aussi aux salariés, sous une autre forme. En réalité, ce serait sans doute via un supplément d'intéressement ou un supplément de participation.
Mais les partenaires sociaux, ils se sont mis d'accord sur quoi, au juste ?
L'accord trouvé du 10 février ne reprend pas l'idée de conditionnement. Il évoque la possibilité, en cas de résultat exceptionnel, du versement d'un supplément de participation ou d'intéressement, mais qui reste à définir. Mais la grande nouveauté, c'est qu'il existerait désormais une nouvelle obligation pour les entreprises entre 11 et 49 employés, qui jusque-là n'étaient pas obligées de mettre en place un dispositif d'épargne salariale. Elles devront, à compter de 2025, faire bénéficier à leurs salariés au moins un instrument de partage de la valeur, si elles sont rentables depuis 3 ans. Pour certains, cette nouvelle obligation ne va pas laisser au patron de petite boîte le choix de réinvestir cet argent dans son entreprise ou de s'en servir tout simplement pour se payer. D'autres économistes déplore le fait que ça va encore être des sommes qui bénéficient d'un régime fiscal avantageux qui ne vont pas alimenter les caisses de l'État, alors qu'on aurait besoin de les renflouer. D'autres estiment encore que le projet dont on a tant parlé n'aboutira qu'à des modifications mineures, alors qu'il faudrait faire évoluer ce système qui date des années 50-60. Par exemple, des économistes expliquent que si on veut vraiment améliorer le partage de la valeur en entreprise à long terme, il faudrait ne pas limiter la question à la répartition des profits, mais aussi parler de prédistribution, c'est-à-dire répondre à la question « qui détient le capital de l'entreprise ?». L'idée, c'est de dire « on n'aurait pas besoin de dividendes salariés ou de nouveaux dispositifs si le capital était mieux réparti et s'il était mieux partagé avec les salariés ». Et pour cela, on a un instrument, l'actionnariat salarié. Ça, c'est Nicolas Aubert qui me l'a expliqué.
Donc, une des préconisations, une des possibilités serait de dire que plutôt que de verser des dividendes aux salariés, qui ne vont pas régler le problème de la répartition de la valeur à long terme, puisqu'on va devoir chaque année se reposer la question de distribuer des dividendes aux salariés si on distribue des dividendes aux actionnaires. Bah, plutôt que d'introduire ce dividende salarié, on pourrait très bien envisager d'attribuer des actions aux salariés, alors des actions gratuites ou des actions auxquelles ils contribueraient avec une décote, un abondement, ce qui existe déjà dans la législation. On a eu dans le droit l'idée qu'on pouvait bénéficier d'actions parce qu'on travaillait dans une entreprise, parce qu'on avait un apport en industrie. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai, parce que si je fais référence à votre travail, par exemple, il est source de valeur pour votre employeur. Mon travail, il est source de valeur pour mon employeur qui est l'université. Vous voyez, le temps passé, finalement, on pourrait s'interroger sur comment est-ce qu'on pourrait le valoriser en tant que propriétaire de ce travail qu'on confie finalement à nos employeurs et qui va être marchandisé si on veut. Mais c'est une façon de s'approprier le travail que d'être aussi actionnaire de son entreprise et de reprendre un petit peu la main sur un travail qui est commodifié ou marchandisé.
Ok, je comprends tout l'intérêt d'être un salarié actionnaire. Mais dans les faits, en France, est-ce que l'actionnariat salarié a été adopté par les entreprises ?
Pas vraiment. On a en moyenne 3,3% du capital des entreprises du CAC 40 détenu par les salariés. C'est bien moins qu'aux États-Unis, où l'actionnariat salarié est assez répandu, en particulier dans les PME. Donc on a une grande marge de progression. Et c'est d'ailleurs ce vers quoi veut tendre le gouvernement, puisqu'il a pour objectif, à l'horizon 2030, d'avoir 10% du capital des entreprises françaises détenu par les salariés. D'ailleurs, l'accord du 10 février prévoit, pour les entreprises volontaires, un plan de partage de la valorisation de l'entreprise qui permettrait de faciliter la mise en place de l'actionnariat salarié. Alors, qu'est-ce que ça permettrait ? Le salarié toucherait des dividendes ? Ok, quoi d'autre ? Il aurait aussi accès à plus d'informations, il pourrait peser dans les décisions relatives à la stratégie de l'entreprise. Parce qu'en fait, c'est pas seulement une question de gain de pouvoir d'achat. Rappelez-vous, dans ce débat, et dès le début, même à l'époque du général de Gaulle, on parle déjà d'aliénation du travailleur, d'empêcher la fracture sociale, de pacte social, de réconcilier les actionnaires et les salariés, le travail et le capital, de justice et de légitimité. Et pour certains, pour atteindre cette paix sociale, il ne faut pas seulement que les salariés participent au profit et au capital. Ils doivent aussi participer aux décisions prises dans l'entreprise. La sociologue belge Isabelle Ferreras n'hésite pas, dans son livre « Gouverner le capitalisme pour le bicamérisme économique », à parler de démocratisation de l'entreprise, à plaider pour la mise en place d'une véritable chambre des travailleurs qui ferait face à la chambre du capital. C'est vrai qu'aujourd'hui, les représentants des salariés pèsent peu dans les sociétés françaises. Ils se réunissent, si on prend une société anonyme, au sein du comité social et économique, qui est une entité consultative sans réel pouvoir. C'est vrai aussi que la loi a imposé depuis 2013 la participation de deux représentants des salariés au conseil d'administration, qui est le lieu où sont prises les décisions. À partir du moment où ce conseil d'administration atteint 8 membres, 2 sur 8, il y a vraiment une marge de progrès. Et la question est loin d'être anodine. Si, en tant que salarié, vous êtes davantage associé aux décisions de votre employeur, vous accepterez mieux les mesures prises ensemble. Oui, on est bien loin d'une direction à la Elon Musk qui fait régner la terreur dans les couloirs de Twitter. Des études ont montré qu'associer les salariés a un effet positif sur la fidélisation, sur la satisfaction, sur l'engagement professionnel des salariés et donc sur leur productivité. Et à l'heure où les entreprises ont du mal à recruter et où les salariés recherchent du sens à leur travail, c'est vraiment une question clé.
Merci Stéphanie. Je retiens qu'on n'a pas fini de parler de partage de la valeur, de participation des salariés et de meilleure répartition des richesses. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Stéphanie Bascou, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Mathéo Gillet et Adrien Beccaria à l'arrière boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin. Produit par Julien Neuville. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Chargée de production, Mathilde Jonin, avec l'aide de Neila Hakmi.